Au micro, Daniel Lamotte pour l'Atelier littéraire. Nous arrivons déjà à la dernière émission de la saison 2020-2021. Dévoilons d'abord un mystère. Mais quelle était la musique d'accompagnement de nos émissions ? Chers auditeurs, voici la réponse. Les Saisons, œuvre composée en 1875 et 1876 par Piotr Ilitch Tchaïkovski. En fait, il a créé un poème symphonique pour chaque mois de l'année. Et chaque mois de l'année, nous vous avons fait écouter le mois correspondant. En avant donc pour un court moment du mois de juin. Retrouvons William Shakespeare. Aujourd'hui, nous allons côtoyer l'un des personnages les plus célèbres du théâtre shakespearien, le truculent Falstaff. Celui-ci apparaît en 1597 dans Henri IV. Puis le succès poussa l'auteur à le faire réapparaître dans une seconde partie de Henri IV, dans Henri V et dans Les Joyeuses Commères de Windsor. Le personnage a tant marqué l'histoire du théâtre qu'il est devenu comme un être réel. Même les peintres l'ont représenté. Avec Edgar Poe, dans L'Ange du Bizarre, en 1844, sur une traduction de Charles Baudelaire, donnons-nous une idée de Falstaff, mais cette fois pour un Falstaff au féminin.
À ce coup, je m'avisais de regarder directement devant mon nez. Et là, effectivement, m'affrontant presque, était installé près de la table un personnage non encore décrit, quoique non absolument indescriptible. Son corps était un énorme vase à vin, ou une pièce de rhum, ou quelque chose d'analogue, et avait une apparence vraiment falstaffienne. À son extrémité inférieure étaient ajustées deux barriques qui semblaient remplir l'office des jambes. Au lieu de bras, pendillaient de la partie supérieure de la carcasse deux bouteilles passablement longues dont les goulots figuraient les mains. En fait de tête, tout ce que le monstre possédait était une de ces cantines de S qui ressemblent à de vastes tabatières avec un trou dans le milieu du couvercle. Cette cantine, surmontée d'un entonnoir à son sommet, comme d'un chapeau de cavalier rabattu sur les yeux, était posée de champ sur le tonneau, le trou étant tourné de mon côté. Et ce trou semblait grimaçant et ridé.
Laissons maintenant place à William Shakespeare. Falstaff et le prince Harry, fils du roi Henri IV, se livrent à une vie scandaleuse de débauche. Falstaff et le prince Harry passent leur temps à l'auberge, dont la patronne n'a de cesse de réclamer d'être payée par eux. Falstaff, le prince Harry et quelques compères avinés décident de voler deux riches marchands en leur tendant un guet-apens dans la forêt. Falstaff parle haut et fort de son courage. Mais, pour s'amuser, le prince Harry lui tend un piège. Falstaff dévalise bien les voyageurs peureux, mais le prince Harry, masqué, arrive sur les lieux, menace d'une épée, et le pleutre Falstaff, abandonnant son butin à terre, s'enfuit plus vite qu'on ne peut l'imaginer d'un si gros homme. Tous nos joyeux drilles se retrouvent ensuite à l'auberge. Plus tard, le roi Henri ayant convoqué son prince de fils pour le sermonner, le prince Harry cherche avec Falstaff les moyens de se sortir d'affaire.
Bon, Harry. Mais tu vas te faire horriblement attraper demain quand tu te présenteras à ton royal père. Si tu m'aimes, prépare une réponse.
Tiens le rôle de mon père et interroge-moi sur ma conduite.
Tu le veux ? Bah d'accord. Cette chaise, tiens, sera mon trône. Ce poignard, mon sceptre. Et ce coussin, ma couronne.
Et ton trône n'est comme on peut le voir qu'un tabouret. Ton sceptre d'or, un poignard en plomb. Et ta riche et précieuse couronne, une pitoyable couronne de crâne chauve.
Bon. Si le feu de la grâce ne s'est pas tout à fait retiré de toi, c'est maintenant que tu vas être ému. Donnez-moi un gobelet de Xérès que j'ai les yeux rouges pour que l'on croie que j'ai pleuré. Car je dois parler avec émotion. Et je le ferai dans le style, tiens, du roi Cambyse.
Bon, voici ma réponse.
Et voici ma tirade. Tenez-vous à l'écart, noblesse.
D'où Jésus ? On va s'amuser, c'est sûr.
Ne pleurez pas, douce reine, car elles sont vaines les ruisselantes larmes.
Oh, le père, la mine qu'il peut avoir.
Pour Dieu, mes seigneurs, emmenez ma reine attristée, car les larmes obstruent les vannes de ses yeux.
D'où Jésus, il joue ça aussi bien que je l'ai jamais vu faire à l'un de ses ribauds d'acteurs.
Paix, bonne Chopine, ma bonne gratte-cervelle. Harry, je ne m'étonne pas seulement des lieux où tu passes ton temps, mais encore de la compagnie que tu fréquentes. Car bien que la camomille, plus on marche dessus et plus vite elle pousse, la jeunesse, en revanche, plus elle est gaspillée et plus vite elle s'use. Que tu sois mon fils, j'en ai pour garantie un peu la parole de ta mère, un peu ma propre opinion, mais surtout un vilain tic de ton œil et cette façon idiote qu'a ta lèvre inférieure de rester pendante. Si donc tu es mon fils, on touche ici du doigt la question. Pourquoi, étant mon fils, es-tu pareillement montré du doigt ? Le soleil, fils béni du ciel, irait-il faire école, buissonnière, pour manger des mûres ? La question ne se pose pas. Le fils d'Angleterre fera-t-il le voleur pour s'emparer de la bourse des gens ? C'est la question à poser. Il y a une chose, Harry, dont tu as souvent entendu parler et qui est connue de beaucoup dans notre pays sous le nom de poix. Cette poix, à ce que rapportent d'anciens auteurs, a pour effet de salir et ainsi fait la compagnie où tu te complais. Car, Harry, je ne te parle pas maintenant entre devins, mais dans les larmes, non pas amusé, mais ému, non pas en paroles seulement, mais dans la peine aussi. Et pourtant, il y a un homme vertueux que j'ai souvent remarqué en ta compagnie. Mais je ne connais pas son nom.
Quelle sorte d'homme, s'il vous plaît, votre majesté ?
Un homme de fort belle prestance, ma foi, et bien enveloppé, l'air réjoui, le port plein de noblesse. Il a, je pense, la cinquantaine, ou même, par Notre-Dame, va sur ses 60 ans. Ah, maintenant cela me revient. Tiens, son nom est Falstaff. Si cet homme était un débauché, il me tromperait fort. Harry, car je vois la vertu dans son extérieur. Oui, si donc l'arbre se reconnaît à ses fruits comme le fruit à l'arbre, alors je suis catégorique. Il y a de la vertu dans ce Falstaff. Fréquente-le, mon fils. Lui, les autres, tu les bannis. Et dis-moi maintenant, vilain chenapan, où étais-tu tout ce mois-ci ?
Est-ce là parler comme un roi ? Prends ma place et je jouerai le rôle de mon père.
Tu me déposes ?
Ouais.
Si tu t'en tires avec la moitié de ma gravité et de ma majesté dans les termes et quant au fond, pends-moi par les pieds comme un lièvre chez le marchand de gibier.
Bon, me voici à ma place.
Et moi, debout, à la mienne. Jugez, mes maîtres.
Voyons, Harry, d'où viens-tu ?
Mon noble seigneur, Deathship.
Les plaintes que je reçois à ton sujet sont graves.
Trouble, monseigneur, elles sont fausses. Attends un peu que je te fasse un jeune prince qui t'asticote.
Quoi ? Tu jures, jeune impie ? Ne lève plus les yeux sur moi désormais. On t'entraîne loin de toute grâce. Il y a un diable qui te hante sous l'apparence d'un gros vieux homme. C'est une tonne, cet homme, que tu as pour compagnon. Pourquoi te commets-tu avec ce coffre d'humeur viciée ? Ce récipient de bestialité ? Ce paquet boursouflé d'hydropisie, cette outre énorme de xérès, ce porte-manteau bourré de tripes, ce bœuf rôti de maguintry avec de la farce dans le ventre, ce vénérable vice, cette iniquité grisonnante, ce voyou vieilli, cette vanité chargée d'en. À quoi est-il bon, sauf à déguster le xérès et le boire? À quoi propre et agile, sauf à découper et manger un chapon? Habile en quoi, sauf en astuce? En quoi astucieux, sauf en canaillerie? En quoi canaille, sinon en tout? En quoi louable, sinon en rien?
Je souhaiterais que votre grâce voulût bien m'aider à la suivre. Qui votre grâce veut-elle désigner?
Cet abominable canaille qui corrompt la jeunesse, hein? Falstaff! Ce vieux Satan à barbe blanche!
Monseigneur, mais cet homme, je le connais.
Je sais que tu le connais!
Mais dire que je lui connais plus de vices qu'à moi-même serait en dire plus que je n'en sais. Qu'il soit vieux, et il n'en est que plus à plaindre. Ses cheveux blancs en témoignent. Mais qu'il soit, sauf votre respect, un putassier, cela je le nie, formellement. Si xérès et sucre sont choses coupables, Dieu vienne en aide aux méchants. Si être vieux et jovial est un péché, alors main vieille aubergiste de ma connaissance est damnée. Si être gras, c'est être haïssable, alors les vaches maigres du pharaon sont adorables? Non, non, mon bon seigneur. Bannissez Petto, bannissez Bardolph, bannissez Poins. Mais pour le cher Jack Falstaff, le bon Jack Falstaff, l'honnête Jack Falstaff, le vaillant Jack Falstaff, et par conséquent d'autant plus vaillant, étant comme il est le vieux Jack Falstaff, ne le bannis pas de la compagnie de ton Harry, ne le bannis pas de la compagnie de ton Harry. Bannir Jack le dodu, mais c'est bannir l'univers.
Permettez-moi de vous conseiller sur les meilleurs films des pièces de William Shakespeare. Ces œuvres sont disponibles en vidéo dans les médiathèques de Clermont-Ferrand Communauté. Les pièces filmées par la BBC, les films réalisés et joués par Orson Welles, ainsi que les films joués et interprétés par Sir Kenneth Branagh. L'atelier littéraire, c'est fini pour aujourd'hui. L'atelier littéraire avec les voix de Dominique Touzé et d'Emmanuel Chanal du Wacan Théâtre, ainsi que la voix de Maric de Bussac. Un grand merci à Joseph Agenet qui nous a accompagnés lors des précédentes émissions et que nous retrouverons à la rentrée. Et cher public, sachez-le, Dominique Touzé vous le déclare. Je vous aime. De fait, toute l'équipe de l'atelier littéraire vous le dit aussi. Cher public, nous vous aimons. L'atelier littéraire, une émission de Daniel Lamotte présentée par lui-même et mise en onde par
Justine Planck.